Bonjour mes frères et sœurs, nous avons commencé une étude aujourd'hui et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 8 et verset 30. Voilà ce que Jésus dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, si vous demeurez dans ma parole, bien sûr, il y a une condition. Il faut demeurer dans sa parole. Si nous demeurons dans sa parole, nous sommes vraiment ses disciples. Si nous demeurons dans sa parole, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous rendra libre si nous demeurons dans sa parole, pas dans ce que nous imaginons être sa parole ou ce que les gens nous disent être sa parole, mais dans sa parole. Et sa parole, c'est pas bien compliqué, elle est dans la Bible, ou si vous pouvez trouver dans un autre témoignage de Jésus-Christ, dans le livre de Mormon, vous pouvez trouver les paroles de Jésus. Voilà, alors dans ce monde, il y a énormément de mal-être. Quelqu'un m'écrivait d'une façon un peu arrogante, mais ça va pas, la paix dans le monde, mais vous vivez dans une grotte, vous vous rendez pas compte tout ce qui se passe. Bizarre comme réaction, me parler de cette manière-là. Déjà, je trouve que c'est un manque de respect. Et bien sûr que je me rends compte de ce qui se passe dans ce monde. Je voyage énormément et je vois bien ce qui se passe. Les maladies, les famines, la guerre. J'ai été pris dans trois coups d'État. Ça tirait de tous les côtés. Je sais. Vous ne vous rendez pas compte, vous vivez dans une grotte. Le terrorisme. J'ai failli exploser sur une bombe. Vous vous rappelez, c'était il y a longtemps déjà. C'était quand la FNAC de Montparnasse avait explosé. Enfin, c'était juste devant la FNAC. Je sortais de la FNAC. J'ai marché, 100 mètres, et ça a explosé. Voilà, les terroristes. Non, je ne me rends pas compte, je vis dans une grotte au Tibet. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. Avant de dire des bêtises comme ça à un serviteur de Dieu, il faut d'abord essayer de penser. Mais ce n'est pas simplement une voix sur Internet, c'est une personne, hein. J'insiste là-dessus parce que je trouve qu'il y a vraiment un manque de savoir-vivre. C'est effrayant, la façon dont les gens se parlent. Et la pauvreté. Alors, je ne me rends pas compte de la pauvreté. Non, bien sûr, je vis dans une grotte. Je ne me rends pas compte de la pauvreté. C'est pourquoi je fais des appels d'argent pour pouvoir aider les pauvres. Nous avons 250 orphelins. Dans un orphelinat au Burkina Faso, nous avons créé des écoles et tout, mais je me rends pas compte. On a nourri des villages entiers qui souffraient de la famine parce qu'il y avait eu des inondations. Non, mais je me rends pas compte, je vis dans une grotte. Bonjour madame, je sais pas dans quelle grotte vous vivez, vous. Peut-être, la violence, toutes ces choses. Bien sûr que je me rends compte. Et puis, est-ce que vous savez, nous nous occupons de nous faire baptiser à la place des morts. C'est quelque chose que le Seigneur nous a confié. Et nous avons toute une équipe qui travaille sur cela pour répertorier, pour recevoir les noms des familles, les noms des gens décédés. Nous recevons des lettres, nous avons... Voilà. Mais vous... Savez-vous qu'il y a 109 personnes qui meurent chaque minute dans ce monde? Vous vous rendez compte le travail qu'on a? On a fait plusieurs dizaines de millions de baptêmes déjà pour les morts. Savez-vous qu'il y a 57 300 000 personnes qui meurent chaque année? Et les églises ne s'en occupent pas. Oui, les catholiques, ils prient pour les morts. Mais c'est une hérésie, c'est interdit de prier pour les morts. Comment je le sais? Mais parce que la Bible le dit. Par contre, elle dit de se faire baptiser à la place des morts. Mais ça, la Bible le dit, mais personne ne le fait, à part les mormons. Mais voilà, c'est moi qui vis dans une grotte. Hein. Vous allez me dire que je suis un peu amer ce soir. Non, je ne suis pas amer, mais je suis un peu déçu de voir qu'il y a des gens qui sont aussi arrogants et aussi impolis, qui manquent de savoir-vivre. Et combien parmi ces gens, ces 57 300 000 personnes qui décèdent chaque année, combien meurent sans avoir entendu parler une seule fois du salut en Jésus-Christ? Alors à quoi ça sert toute la connaissance qu'on reçoit dans les églises? Un homme de connaissance, il vit en agissant. Et non en pensant à agir, tiens, il faudrait quand même que je fasse quelque chose, frère, ou en priant pour savoir que faire. Combien j'ai connu de chrétiens qui passaient des nuits de prière pour savoir quelle était la volonté de Dieu à leur égard. Ben, ouvrez les yeux, puis vous allez voir, il y a tellement de choses à faire dessus. Un homme de connaissance choisit un chemin qui a du cœur et il le suit. Alors tout le monde ne va pas faire la même chose, mais voilà, on a chacun un cœur qui nous pousse vers ceci ou vers cela. En fait, c'est Dieu qui fait ça. Et ce que vous trouvez à faire, faites-le avec amour. Mes frères et sœurs, on a le privilège de pouvoir nous engager sur le chemin que Jésus a ouvert. Pour que nous y marchions, pas pour qu'on dise « Oh, voilà un chemin qu'il est beau. À mon avis, je pense que ce petit brin d'herbe au bord du chemin, il est là pour la raison que… » Puis alors on dissèque la parole de Dieu. Ouais, ben c'est bien gentil, mais… C'est ce que beaucoup font le soir, on dissèque, on discute au sujet du chemin, mais est-ce qu'on avance sur ce chemin? Est-ce qu'on est actif sur ce chemin? La condition humaine, c'est un chaos qui fait peur. Et nous sommes tous des êtres qui allons un jour ou l'autre mourir. J'ai passé à côté de la mort il n'y a pas longtemps. Il faudrait que les chrétiens arrêtent de dormir dans leur confort matériel et dans leur arrogance. L'Église de Jésus-Christ est notre royaume sur terre. Jésus est notre roi et nous vivons dans son royaume. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église, nous sommes membres du corps de Christ. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Bon, alors on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Mais on vit dans son royaume, avec ses principes à lui. Encore faut-il les connaître, et puis les mettre en rapport avec ce qui se passe dans ce monde, pour être utile à la gloire de Dieu et au bien de ceux qui nous entourent. Alors, beaucoup se sont exclus du royaume de Dieu, par esprit d'indépendance, ils veulent vivre leur vie chrétienne, mais pas dans le royaume, pas dans l'église, non. Ok, je sais qu'il y a des choses scandaleuses dans les églises. L'autre jour, quelqu'un m'a écrit au sujet de, parce qu'il a trouvé notre site, puis dans ma page Révélation Bible, il me dit, ah, pour moi, il n'est pas question d'entrer dans un groupe de pédophiles. Ben dis donc. Mais vous savez que je peux porter plainte pour une chose comme ça, c'est une insulte grave. Je sais qu'il y a des pédophiles il y en a partout, il y en a peut-être même dans votre famille, ou peut-être même vous en êtes un, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des choses scandaleuses dans les églises. Je vous l'ai dit, je vous l'ai enseigné, je n'ai pas essayé de vous cacher ces choses. Livrer la mauvaise herbe, elle pousse en même temps que le bon grain. Voilà, c'est comme ça. L'Église est loin de vivre dans l'impeccabilité. Impeccable, c'est un mot qui vient du latin, qui signifie « sans péché ». Alors l'Église est loin de vivre dans l'impeccabilité. Vous savez, même dans notre propre communauté, nous avons accueilli un jeune homme qui était désespéré, nous l'avons consolé, nous l'avons rassuré, nous l'avons remis sur pied, nous l'avons trouvé du travail, tout semblait aller bien jusqu'au jour où on a découvert qu'il prenait en photo les culottes des femmes par-dessous la table, il volait les sous-vêtements dans la salle là où se faisait la lessive, enfin bref, un petit cochon, Voilà, on pourrait dire, alors sachant cela, dans la communauté de Genton, hein, il y a des cochons, il y a des pervers. Moi, en tout cas là, il y en a eu un. Bon, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'on est tous des pervers, on est tous en train de prendre des photos, des culottes. Allez, faut pas exagérer. Il y a l'église, et dans l'église, il y a l'ivraie. Voilà, c'est tout. Mais moi et vous, ben, nous ne sommes pas impeccables, on commet tous des erreurs. Le mot péché veut dire erreur, on commet tous des erreurs. Mais maintenant, c'est bien de gentil de critiquer l'Église et puis d'être indépendant. C'est une bonne excuse, hein, de se faire. Mais c'est quand même Jésus qui construit son Église. Il faut la respecter, son Église, même s'il y a dedans des choses qui ne sont pas respectables. Alors, voilà. Notre voie, c'est la recherche de la meilleure utilisation possible de notre personne au service de Dieu et au service des gens. Voilà ce que c'est quand on est dans le royaume. Alors oui, cette voie, elle est exigeante. Elle exige du sérieux, elle exige aussi de la simplicité. Et puis de l'innocence, c'est-à-dire de l'absence d'autocontemplation. L'apôtre Paul dit, je vais déraisonner un petit peu à votre façon. Moi aussi j'ai fait ci, moi aussi j'ai fait ça, moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, alors je peux aussi moi me vanter de... Oui, alors l'auto-contemplation, il dit, pardonnez-moi, je parle à votre façon. Non. L'absence d'auto-contemplation, cette voie que nous avons prise, c'est la voie de l'absence de l'auto-contemplation. Vous savez, comme on le dit, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font rien de mal. Alors, parfois, on blesse, parfois on se blesse, et parfois on se fait blesser dans le royaume de Dieu, hein, je dis bien dans l'Église, c'est certain. Dans le royaume de Dieu sur la terre, c'est-à-dire dans l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin d'instructions, nous avons besoin d'enseignants, nous avons besoin de guides. Bref, on a besoin des ministres de l'Évangile et des frères et sœurs. Vous savez, dans l'Église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils prenaient le pain et le vin, ils persévéraient dans ces choses. Nous en avons besoin, oui, mais pas si nous ne sommes pas en communion avec Jésus d'une façon personnel. Parce que sinon, tout ça, ça devient une espèce de routine, une espèce d'habitude. Et c'est là où la vie d'église devient ennuyese et puis où on fait que de s'apercevoir des problèmes qu'il y a et du pasteur qui se comporte comme un petit chef de rayon, etc., etc., et on voit tous les défauts. Mais si on est actif, ben, ces choses-là, elles passent derrière. Notre principal besoin pour pouvoir servir Dieu dans son royaume, dans son Église, c'est déjà premièrement d'écouter le roi, d'écouter Jésus. On a lu tout à l'heure, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Demeurez dans sa parole, connaître ce qu'il a dit. Moi, j'ai des Bibles. Là, celle que j'ai là, qui s'appelle la Bible avec notes d'études archéologiques et historiques, c'est sympa parce que toutes les paroles de Jésus ont été imprimées en rouge, donc on les retrouve facilement. Si vous demeurez dans ma parole, dans ce que je dis, vous êtes mes disciples, vous connaissez la vérité. Quand on écoute Jésus, ou quand on lit ce que Jésus a dit, eh bien, on peut s'habituer à sa voix et la reconnaître et entendre les chuchotements du Saint-Esprit qui est le même qui agissait dans Jésus quand il était sur cette terre. On peut reconnaître aussi les ministres de Dieu et ceux qui ne sont pas des ministres de Dieu. Dans l'Église primitive, il y avait déjà des gens qui s'étaient introduits dans les églises et qui n'étaient pas ministres de Dieu, mais qui étaient simplement des beaux parleurs et qui inventaient des trucs. Mais ils ont été trouvés, là, on trouve ça dans la Bible, ils ont été trouvés menteurs parce qu'ils n'étaient pas corrects sur les paroles de Jésus. Parce que les faux ministres ça, se sont introduits, il y en a plein maintenant, hein, dans les églises, c'est terrible. Ce sont des loups déguisés en brebis, nous dit Jésus. Plus généralement maintenant, c'est vous avez plein de gens qui sont pasteurs parce qu'ils ont raté médecine ou parce que ils savent pas quoi faire d'autre. Ou alors vous avez des gens qui sont vraiment frappadingues, hein, des doudingues, je veux dire. Que veut dire le Seigneur dans son royaume, dans son église, à ce sujet-là? Ce qu'il veut pour vous. Il veut vous soutenir. Il veut soutenir votre intensité dans le bon combat de la foi. Et vous avez besoin des ministres, vous avez besoin des frères et sœurs pour vous motiver, vous encourager, pour soutenir votre intensité. Seul son esprit, il peut le faire, mais ce n'est pas dans son plan. Son plan, c'est l'Église. Il a dit « Je suis venu pour bâtir mon Église ». Soutenir votre intensité dans le bon combat de la foi au service de Dieu et au service des autres. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas les autres qu'on voit. C'est facile de dire j'aime Dieu, mais ah, si on n'aime pas son frère, la Bible dit tu es un menteur. Alors tout le travail d'un habitant du royaume terrestre de Dieu, ah qu'il est doux d'habiter ensemble, ah qu'il est doux de demeurer ensemble, vous connaissez tous ce psaume, hein? Eh bien, le travail d'un habitant du royaume terrestre de Dieu, c'est de poser des actes ou des paroles au bon moment, avec tact. Et alors, moi je prie afin que vous qui avez trouvé révélation Bible, votre vie soit une aventure de foi extraordinaire. Vraiment, je prie que vous trouviez quelque chose, une vie extraordinaire, une vie d'aventure. Puissiez-vous faire une différence là où vous passez, que vous soyez vraiment le sel de la terre, la lumière du monde, pour la plus grande gloire de Dieu, pour le plus grand bien des vivants et des morts aussi, selon 1 Corinthiens 15, 29, toujours. Parce que nous avons du travail. Souvenez-vous, 109 personnes meurent chaque minute dans ce monde. C'est combien de temps que j'ai commencé à prêcher, là? Eh bien, il y en a des milliers, déjà, qui sont morts depuis que j'ai commencé. Sont passés dans l'éternité. Nous avons donc du travail, selon 1 Corinthiens 15, 29, et selon Marc 16, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc, nous avons du travail, et pas seulement de prêcher, mais d'aider, de bénir, de pourvoir aux besoins des autres. Votre vie de chrétien ne peut pas être un long chemin tranquille. Mais votre vie de chrétien doit être une aventure intense, où il n'y a que des moments extraordinaires. Mes frères et sœurs, tous les chrétiens évangéliques savent que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ah, alléluia, Jésus revient. Mais ils continuent à s'identifier à leur petit désir personnel. C'est de l'incohérence. C'est de l'incohérence. Vous connaîtrez, vous serez mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Sa parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, occupez-vous premièrement du royaume de Dieu, c'est-à-dire de son Église, et de sa justice, de la justice qui concerne son royaume, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. Voilà ce que Jésus dit. Mais vous avez inversé le truc. On s'occupe de ses petits besoins personnels, de sa petite vie, et puis voilà, on consacre une heure ou deux à aller au culte, à l'église, le dimanche, puis on trouve encore moyen de se chipoter avec la sœur machin, avec le frère truc, et tout. Non, c'est pas ça. Agissez au nom du Seigneur Jésus-Christ, sans désir de récompense au bout. Ça paraît absurde aux gens qui ne sont pas de notre royaume, de faire des choses sans espérer avoir une récompense au bout. Les gens sont poussés à l'action si seulement ils y trouvent un bénéfice personnel. Par exemple, voilà, beaucoup de chrétiens, par exemple, se réjouissent que Jésus revienne. Ah, Jésus revient, il va mettre de l'ordre, il va, hein, et puis tous ces pécheurs, ils vont les griller en enfer. Non, mais c'est affreux de penser comme ça. C'est affreux de penser comme ça. Depuis tout petit, on a été élevé dans l'idée qu'il faut investir. Alors, j'investis de l'argent dans l'œuvre de Dieu, je m'investis moi-même, mais dans quel but? On peut le faire sans but personnel, simplement pour le bien du royaume de Dieu. C'est ça que Jésus attend de nous. Nous n'agissons pas pour notre profit. Par contre, on agit avec plaisir. Et on ne considère pas ce plaisir comme un bénéfice de nos actes. Non. Ce plaisir nous vient de notre nouvelle nature. C'est difficile à expliquer avec des mots des choses spirituelles. Vous savez, les gens disent qu'ils veulent être libres. On a lu tout à l'heure, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et donc cette vérité-là va vous rendre libre. Et les gens disent qu'ils veulent être libres. Ah oui, mais vivre en communauté, t'es pas libre. Mais qu'est-ce que tu penses à quoi quand tu penses au mot libre? Ils disent qu'ils veulent être libres. C'est juste ce qu'ils disent, mais c'est pas ce qu'ils aimeraient pour leur vie. Ils n'aimeraient pas être libres tel que Jésus l'entend. Parce que quand on est libre, on n'est plus ligoté par tous ces trucs, toutes ces routines qui nous rassurent. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Jésus dit qu'il est la vérité. Il dit que lorsque nous le connaissons, nous sommes réellement libres. La vie éternelle, il dit, c'est de connaître Dieu et de me connaître. Et voilà ce qu'il dit. Et quand on connaît Jésus, celui de la Bible, hein, pas le petit Jésus seulement qu'on nous montre dans une crèche ou sur une croix, un petit Jésus qui peut rien faire parce qu'il est ligoté, emmailloté dans une crèche ou cloué sur une croix. Non, je vous parle pas de ce Jésus-là, bien qu'il ça existait, mais je vous parle de son enseignement pour l'action. Bien, quand on connaît ce Jésus de la Bible, nous nous trouvons libres, c'est-à-dire disponibles dans ce monde où nous vivons encore, on est encore dedans, mais qui nous apparaît comme étranger. Quand on se convertit, on trouve que tout est étrange. Nous sommes dans ce monde comme à l'étranger. On a conscience de ne pas être d'ici. Moi, j'ai conscience de ne pas être d'ici. Hein. Et nous brisons nos routines par amour pour les autres, par amour pour Dieu, sans rien attendre en retour. Et les gens pensent que nous sommes fous, ou escrocs, ou n'importe quoi. Enfin, ils nous qualifient de toutes sortes de noms d'oiseaux. Je vais vous dire, les gens de ce monde voient bien qu'on n'est pas normaux. Non, non, un vrai chrétien n'est pas normal. Les gens de ce monde se croient normaux. Mais moi, je revendique mon anormalité. Non, je ne suis pas normal, je ne suis pas comme eux. Non. Ils se croient libres, ou ils désirent être libres, disent-ils. Et quand ils nous voient, ça leur semble fou, alors qu'en réalité, c'est juste que nous ne sommes plus dans leurs normes. Nous avons enlevé le masque de suffisance que la société nous a collé. On ne s'apitoie plus sur nous-mêmes. On se tourne vers Dieu, on se tourne vers les autres. Notre royaume, il est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On a trouvé notre véritable identité. Quand on était dans le péché, on mourait à cause de besoins complètement aliénants. Mais on ne s'en rendait même pas compte. On ne se rendait pas compte. On avait juste comme un mal-être, mais on ne savait pas l'identifier. Ça me fait penser, tout à l'heure, je regardais les informations, je voyais, ils disaient, n'achetez pas cette sorte de jambon parce qu'il y a du je ne sais pas quoi dedans. Vous savez, ce jambon bien rose, comme ça, le vrai jambon, il n'est pas comme ça. S'il n'a pas été transformé, il n'est pas comme ça, bien rose. Et ils interviewaient les gens dans la rue, est-ce que vous savez que ces poisons... Oui, un bonhomme qui disait, avec un grand sourire, oui, je sais que ce n'est pas bon, mais pourquoi vous en mangez alors? C'est pratique, je n'ai pas le temps avec mon boulot et tout ça. J'ai pas le temps. Ils sont aliénés. Et c'est nous les aliénés. C'est nous les fous, les malades. Le monde est fou. Et ils nous traitent, nous, de fous. Alors, les gens ont conscience, plus ou moins, c'est un peu comme un mal-être. Ils savent pas vraiment l'identifier. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, non pas à une religion, je dis bien, mais à Jésus-Christ, quand on se tourne vers Jésus, se convertir, ça veut dire changer de route. C'est-à-dire on suivait l'ennemi, le diable, sans le savoir, et puis on se tourne vers Jésus et on suit le Seigneur. C'est ça que Jésus appelle mourir à soi-même. C'est-à-dire à tout ce truc du monde. Paul, je trouve que Paul l'a très bien dit, il dit maintenant si je vis, il dit, à partir du moment où il a donné sa vie à Christ, il dit maintenant si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Christ est disponible en moi, Christ est disponible au travers de moi, non plus pour satisfaire mes besoins aliénants, non, mais pour aller au secours des gens qui végètent dans ce monde confus, plein de souffrances, plein de malheurs, où on leur présente des futilités comme si elles étaient vitales. Hein, oui. Alors, on n'est pas insouciant. Vous ne vous rendez pas compte, vous vivez dans une grotte. Nous ne sommes pas insouciants comme beaucoup qui parlent de la misère du monde sans jamais rien faire. N'est-ce pas? Nous nous abandonnons, laissant Jésus-Christ être bienveillant par nous, au travers de nous. Alors, c'est vrai que ce n'est pas donné à tous. On ne peut pas jouer au disponible. On ne peut pas. Ou alors un petit peu, un petit moment. Certains seront disponibles pour un temps, pour se donner bonne conscience, pour avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. Je voyais aussi dans les mêmes... c'était là, à midi, à une heure, aux informations, toute une bande de jeunes qui partaient pour aller nettoyer les plages. Mais c'est bien ce qu'ils font, c'est super ce qu'ils font. C'est très bien. Mais ils vont faire ça, quoi, 3-4 jours. Un chrétien, il est chrétien à plein temps. Il est dans le royaume de Dieu à plein temps. Il obéit à Jésus à plein temps. Il est au service des autres à plein temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas une petite semaine qu'on consacre pour aller nettoyer des... Voilà. Chez nous, là, à côté, il y a le chemin de Compostelle qui existe. Il y a des milliers de pèlerins qui passent, là. Et il y a des bénévoles qui vont pour nettoyer le chemin, pour débroussailler, pour... Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est parfait. Mais c'est des bonnes actions qu'ils font. C'est vrai, ils n'ont pas de récompense pour le faire, mais... Voilà, mais c'est... C'est pour une satisfaction qui n'a pas de portée éternelle. Un disciple de Jésus, il est disponible en actions qui ont une portée sur ce monde. C'est vrai, c'est pas interdit qu'un chrétien aille nettoyer les plages ou les forêts qui sont souillées. C'est vrai, il peut aussi surtout éviter de les souiller. Mais un chrétien, il a une action qui a une portée sur ce monde, c'est vrai, mais aussi au-delà de ce monde. On gagne des âmes pour Jésus, on éveille des consciences, et tout ça, ça a une portée éternelle. On vit dans ce monde, on n'est pas de ce monde, Jésus a dit ça. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pour ça qu'on passe pour des dingos. Bon, il y a des dingos, hein. J'ai vécu dans ce monde des situations où tout s'effondrait autour de moi, il n'y a pas encore très longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait? Ben, j'ai admis que voilà, c'était terrible, mais j'ai repris mon chemin avec courage et avec légèreté, en disant, bon, et maintenant on fait quoi? Ça continue, la vie continue. Et j'ai passé pour un fou. J'ai passé pour un fou. Mais laisse tomber tout ça. Pourquoi je passe pour un fou? Parce que j'ai conscience que je ne suis pas le centre de la vie, de la vie des autres. Chacun est son propre centre, a son propre centre. Et les autres sont juste des éléments. Vous avez des gens qui vous entourent. Et vous êtes le centre de votre propre vie, mais vous n'êtes pas le centre de leur vie. Vous êtes le centre de votre propre vie. Et eux, ils sont des éléments dans une pièce de théâtre dont vous avez le rôle principal. Si chacun pensait comme ça, chacun prendrait soin de ses partenaires, de ceux qui sont autour, de son prochain, comme on dit, comme la Bible dit. Vous êtes libre. Vous ne suivez pas une religion, moi j'espère, ni un club, une société. Vous êtes dans le royaume dont Jésus est le roi. Vous avez conscience que vous avez à jouer votre propre rôle. Personne ne vous y oblige, personne ne vous dit ce que vous avez à faire. Vous le savez. Avec votre cœur, vous savez ce que vous avez à faire. Ce n'est pas un pape qui va vous le dire, ce n'est pas un patron, ce n'est pas un président, ce n'est pas un gourou. Vous avez la Bible. Et puis, la Bible, c'est comme une carte de route dans ce monde. Quand vous lisez ça, vous allez, ah, voilà, je peux faire ça, je peux faire ça. Il y a tant de choses qu'on peut faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas obligé de demander quelle est sa volonté. Elle est déjà écrite, sa volonté, dans la Bible. Globalement, elle est écrite. Vous savez juste que vous avez à vous occuper des choses du royaume de Dieu avec vos talents. Personne d'autre que vous sait quels sont vos talents. Et quels sont les talents que vous utilisez le mieux. Alors, peu importe où, peu importe avec qui, c'est pas ça qui est important. Vous savez que Jésus, le roi, vous guide et ne vous trompera jamais. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. C'est pas la liberté de faire ou d'être ce que vous voulez ou ce que vous désirez, c'est d'avoir le pouvoir d'être et de faire la volonté de notre Seigneur roi Jésus-Christ. Or, sa volonté globale, comme je vous disais, ben, elle se trouve dans la Bible. Et vous avez la promesse que si vous l'accomplissez, Dieu vous donnera tout par-dessus. Ce n'est pas comme une récompense. Vous n'allez pas vous mettre au travail de Dieu pour avoir une récompense, mais il va assurer votre vie. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Vous ne manquerez de rien. C'est sa promesse. Ce n'est pas un salaire, c'est une promesse. Et il le fait. Et puis en plus, si il voit que vous faites même des petites choses au début, eh bien, il vous en confiera de plus grandes. L'autre jour, vous savez, quand je prends mon petit déjeuner, je fais des miettes avec le pain et je prends toutes les miettes qui sont sur la table autour de moi et puis je vais les mettre sur notre terrasse et il y a les petits oiseaux qui viennent les manger. Et puis un jour j'ai fait une vidéo, puis je l'ai mise aussi sur Révélation Bible en disant aux gens, vous vous demandez qu'est-ce que c'est faire la volonté de Dieu, ben faites ça déjà. La Bible dit que Dieu prend soin des petits oiseaux, mais il prend soin des petits oiseaux aussi au travers de vous. Donnez-leur à manger vous-même. En son nom. Voilà, c'est une petite chose, vous pouvez le faire, ça. Et puis si vous le faites, ben Dieu va vous en confier de plus grandes, il va vous ouvrir le cœur et les yeux pour que vous sachiez quoi faire, plutôt que de vivre dans une espèce d'autosuffisance, de chrétien qui prie, mais qui fait pas vraiment la volonté écrite de Dieu. Vous voyez ? Dieu vous confiera des choses encore plus grandes. En fait, c'est infini. Voilà ce que c'est la liberté, c'est l'infini. C'est être infini en tout, en action, en progrès, en tout. Être infini, être éternel, en paix éternelle. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions un petit peu... c'était pas très construit ce que je vous ai dit ce soir, mais je pense que ça peut toucher le cœur de certains. Et j'espère que la personne qui m'a écrit, mais vous vivez dans une grotte ou quoi ? J'espère qu'elle a écouté ce message et puis qu'elle se met à comprendre un petit peu plus, un peu mieux qu'est-ce que c'est qu'un chrétien qui demeure dans la parole de Jésus. Pas dans les dogmes d'une religion, dans la parole de Jésus. Vous connaîtrez ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre, non pas libre de faire ce que tous les péchés que vous voulez, mais libre, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir d'agir en son nom, au nom du roi, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Jésus, je te prie, aide mes frères et sœurs à intrigué dans tout ce que j'ai dit, c'était un peu décousu, mais qu'ils puissent trouver la phrase ou les phrases qui touchent leur cœur et qui leur montrent « Ah, voilà quelque chose pour moi. » Aide-les, Seigneur Jésus, je te le demande, Père. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Au revoir.